Salut, c'est Mélanie et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la to-do list, ou en bon français, une liste des choses à faire. Dans cet épisode, nous verrons pourquoi nous faisons des listes, comment les organiser et les optimiser, quelques exemples de supports papier ou numérique pour faire des to-do list, et à quel moment définir ce qu'il y a dessus, tout ça pour atteindre le Graal, terminer toutes les choses à faire dans un temps donné. Pour cet épisode, je vous invite à prendre de quoi noter, que ce soit une feuille et un stylo, une page blanche sur votre ordinateur ou une appli de prise de notes sur votre téléphone. Et si vous avez une ou des to-do list à portée de main, prenez-les avec vous et vous pourrez tester les conseils donnés dans ce podcast en même temps. Avant de commencer, je dois rendre à César ce qui appartient à César. Enfin, plutôt à Kian, ce qui appartient à Kian. En 2020 et 2021, Kian Kojandi, c'est le mec de bref, a créé l'émission Un bon moment, disponible sur YouTube et sur les plateformes de podcast, où il recevait, avec son acolyte Navo, leurs amis connus pour discuter de leur métier, d'anecdotes de vie et prendre du plaisir à partager un moment agréable ensemble. Et c'est lors d'une de ces émissions qu'il a évoqué le fait d'avoir une to-do list écrite T-O-U-T et plus loin D-O-U-X, en précisant qu'une liste de tâches à faire pouvant être perçue comme une contrainte, autant y mettre un titre plus agréable à lire et donc tout en douceur. Et c'est depuis que j'écris ou que je visualise le nom de ma liste de tâches à faire avec ce nom. Imaginez alors que to-do s'écrit T-O-U-T-D-O-U-X sur le reste de l'épisode. Mais alors, pourquoi faisons-nous des listes? Qui n'a pas un cahier, des post-it, un tableau blanc dans la cuisine, sur lesquels sont écrits tout un tas de choses à faire, à ne pas oublier, des rendez-vous ou des petits mots? Déjà, la to-do list permet de libérer l'esprit et de mettre en place une sorte de plan d'action pour se projeter avec des dates butoirs et donc éviter de stresser face à la montagne de tâches à faire. Cela permet aussi d'avoir une vue globale. En visualisant clairement ce que nous avons à faire, nous estimons mieux le temps que cela va prendre, ce qu'il nous restera comme temps disponible, et donc d'avoir la structure de la journée pour gagner en productivité. Si je résume, les mots-clés d'une bonne to-do list sont liberté, visualisation et productivité. Je tiens à apporter une précision avant de passer à la suite. Ce que je vous propose ici ne vous permettra pas de révolutionner votre quotidien. Parce que l'organisation et la réalisation de nos tâches dépend aussi de mécanismes psychologiques, comme la procrastination par exemple. Et si vous êtes organisé mais que vous n'arrivez pas à vous mettre dans vos tâches, une to-do list ne vous permettra pas de solutionner votre problématique. Qu'est-ce qui différencie une bonne to-do d'une mauvaise to-do? Pour répondre à cette question, je vous propose de lister les 10 habitudes à adopter pour créer la to-do list qui vous correspond. En numéro 1, écrire les tâches à un seul endroit. Si vous êtes comme moi, dès qu'une idée vous vient, il vous faut tout de suite l'écrire, sans quoi vous risquez d'oublier ou de perdre votre fil de pensée. Le problème, quand on n'a pas son carnet sous la main, c'est qu'on veut écrire sur le premier truc qui nous vient. Un post-it, un coin de cahier, l'appli de notes du téléphone, etc. Or, nous devons choisir l'outil facilement accessible et sur lequel on aime prendre des notes. Pour cela, vous avez l'incontournable bloc-notes ou le cahier, ou bien un panneau en liège avec des post-it, ou encore un tableau blanc avec des marqueurs de couleurs. Et pour les versions numériques, il y a l'outil Notion, sur lequel vous pouvez créer des tableaux avec des étiquettes de tâches, ou encore Trello et Monday.com. qui vous propose des tableaux collaboratifs ou non, sur lesquels vous créez des listes et des cartes qui représentent les tâches à faire, avec un système de cliquer déplacer qui vous permet de facilement visualiser les éléments encore à faire, ceux en cours et ceux déjà réalisés. Habitude numéro 2, avoir le matériel à disposition pour noter rapidement. Assurez-vous d'avoir toujours un stylo, votre appli de notes ouverte, sans que cela n'entrave la règle numéro 1. Le troisième point est sûrement évident et pourtant à rappeler, la to-do list est votre outil du quotidien. Et donc, en découle l'habitude numéro 4, pour qu'une to-do list soit efficace, elle doit contenir des objectifs précis. Par exemple, au lieu de « document dossier A pour Michel », écrivez « transférer les documents du dossier A à Michel ». Vos objectifs sont alors des verbes d'action bien définis. De même, lorsque vous avez un gros projet à réaliser, découpez-le en sous-projets pour éviter de vous décourager et de procrastiner. Et si vous faites le projet avec Michel, il vous remerciera. Dans la même lignée, et c'est mon cinquième point, il est impératif de limiter le nombre de tâches à faire par jour. Parce que le Graal n'est-il pas d'avoir rayé tous les éléments de sa liste en fin de journée ? Avoir une liste de choses à faire, c'est bien. Terminer sa to-do list, c'est mieux. Et pour connaître le nombre d'éléments à mettre dans la to-do du jour, il faut savoir mesurer le temps nécessaire pour réaliser les tâches. Pourquoi mesurer le temps ? Parce que lorsque nous avons du temps, nous le prenons. Si vous avez 3 heures devant vous pour rédiger un document qui doit normalement vous prendre 2 heures, eh bien vous verrez que vous utiliserez ces 3 heures. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Connaître la durée moyenne pour faire chaque chose peut vous faire gagner en productivité, puisque vous pouvez alors fixer le créneau de temps à allouer et donc mieux organiser vos journées. Comment mesurer ce temps ? Soit par expérience, soit en estimant la durée et rajouter 50% du temps en plus. Cela vous laisse une marge de manœuvre pour ne pas créer un sentiment d'urgence ou d'échec si vous mettez plus de temps que prévu. Habitude numéro 6, prioriser les tâches sur votre liste. Pour ce faire, vous pouvez opter pour des lettres de l'alphabet ou des numéros, ou plus surprenant, avec des tailles de t-shirt. Je m'explique. Une tâche est rapide à faire, c'est une taille S. Elle met un peu plus de temps, c'est une taille M. C'est un travail de longue haleine, elle peut passer en taille XL, voire XXL. Je trouve la métaphore plutôt facile à retenir et à utiliser. Et il existe même un modèle de classification des tâches selon le degré d'urgence et d'importance, qui sert alors d'outil d'aide à la décision et qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Cette matrice se compose de 4 cadrans, les tâches importantes et urgentes, celles importantes non urgentes, les tâches non importantes et urgentes, et enfin les tâches non importantes et non urgentes. Le cadran 1 avec les tâches importantes et urgentes est bien sûr la priorité absolue en termes de traitement. Numéro 7. Prioriser, c'est aussi ne pas hésiter à supprimer des tâches. Oui, celles que vous remettez systématiquement dans la liste en vous disant qu'un jour vous vous y mettrez. Pour vous aider à valider que cette tâche est à supprimer, pourquoi ne pas utiliser la matrice d'Eisenhower que j'évoquais juste avant ? Demandez-vous si l'action à faire est importante ou urgente. Si elle n'est ni importante ni urgente, alors vous avez deux options, soit la déléguer à quelqu'un qui la considère comme prioritaire, soit la supprimer. Si vous avez votre to-do à portée de main, en avez-vous trouvé ? Alors vous pouvez les rayer, parce qu'il vaut mieux épurer sa to-do list que de l'encombrer de choses peu utiles que vous avez peut-être écrites il y a 3 semaines ou 2 mois. En 8e habitude, je vous dirais qu'il est plus intéressant de ne pas dissocier les tâches personnelles et professionnelles. Nous avons parfois des tâches personnelles qui sont facilement réalisables dans une journée de travail, comme prendre un rendez-vous médical, appeler sa banque. Est-ce que quelqu'un appelle encore sa banque ? Profitez de faire une pause entre deux tâches professionnelles qui vous ont demandé de l'énergie pour faire un des éléments de votre to-do perso. Et hop, 2 en 1. Vous constaterez que rayer un élément de la liste qui ne nous a pris que 2 minutes, mais qui nous aide à évacuer de la charge mentale est très satisfaisant. Numéro 9. Faire des revues régulières pour vous féliciter du travail accompli. Une revue régulière, ça peut être de noter à nouveau au propre sa to-do list ou de déplacer les éléments dans une archive si vous êtes sur votre ordinateur ou votre téléphone. Faire le tri ou épurer la to-do vous permet de prendre du recul et de constater que ce qui était au départ des éléments parmi d'autres vous procure une énergie et une certaine fierté. Faire une revue, c'est aussi relever la tête. Si vous vous sentez submergé ou si vous avez l'impression de ne pas avoir fait grand-chose depuis quelques jours, pourquoi ne pas prendre 10 ou 15 minutes pour regarder le travail accompli ou aller vous balader sans téléphone ni musique, juste pour souffler et pour vider votre esprit ? En résumé, nous avons les 9 habitudes suivantes pour une to-do list. Tout au même endroit, toujours le matériel à portée de main, c'est votre outil du quotidien dans lequel vous pouvez y mettre des tâches personnelles et professionnelles. Vos objectifs doivent être clairement écrits, avec un nombre limité de tâches à faire par jour. Pour cela, priorisez vos tâches par ordre d'importance, d'urgence et de durée pour le faire. Supprimez celles qui n'apportent pas de valeur ajoutée dans votre quotidien et mettre à jour régulièrement sa to-do pour voir le travail accompli. J'ai parlé des 10 habitudes pour avoir une to-do list efficace. Voici le 10e point qui, pour moi, devait avoir son chapitre à part entière. La planification ou quand organiser sa to-do list. Maintenant que vous savez pourquoi et comment organiser votre to-do list, la question qui vient est quels sont les meilleurs moments pour rédiger et penser aux tâches que nous devons réaliser? Naturellement, nous pourrions nous dire au fil de l'eau, ou tous les matins, ou tous les soirs, pour préparer le lendemain, puisque nous avons vu quel est notre outil du quotidien. Mais qui dit quotidien ne veut pas dire qu'on ne peut pas planifier et projeter à plus loin. Avoir en visuel les événements déjà prévus sur les prochaines semaines, prochains mois est sans conteste un must-have pour piloter ses journées. Pour ce faire, en version papier, il existe des semainiers ou des carnets pour vous projeter sur un trimestre ou des agendas sur une année. Prenons un exemple. La rédactrice web et coach Pauline de Break Your Day avait donné une masterclass il y a quelques mois sur sa propre organisation qui m'a beaucoup inspirée. Et voici ce qu'elle a mis en place dans son quotidien en tant qu'indépendante. Elle a appelé ça sa to-do inversée. Le dimanche soir, elle liste toutes les tâches pro et perso à faire sur la semaine sur une feuille blanche. Elle en évalue le temps nécessaire et elle glisse l'ensemble dans un semainier. Cela lui permet alors de ne consacrer que le temps qu'elle s'est alloué à son travail et pas plus. Sur ce sujet, j'émettrai juste une remarque quant au moment de remplir le semainier. Elle le fait la veille du premier jour de sa semaine. Je conseillerais plutôt de le faire le matin avant de démarrer votre semaine. Je ne dis volontairement pas le lundi matin parce que peut-être que votre organisation fait que vous travaillez du mardi au samedi ou du vendredi au mercredi par exemple. Donc, au premier jour de votre semaine et avant de démarrer votre première tâche, remplir votre weekly planner vous permet de visualiser votre semaine, vous assurer que les objectifs que vous vous fixez sont atteignables en fonction de l'énergie que vous avez et voir aussi quels sont les moments où vous avez du temps pour vous ou pour faire place aux imprévus. Et pourquoi pas la veille au soir ? Votre temps de repos, en dehors de votre temps de travail, doit être un moment de déconnexion totale. Je vous conseille donc de cloisonner vos temps pour vous créer une routine et donner à votre esprit la liberté de penser au bon moment, aux bonnes choses. C'est personnellement ce que je fais depuis des années. Je ne regarde pas mon planning de la semaine avant le lundi matin et je me prévois 15 minutes avant de démarrer toute activité professionnelle pour visualiser ce qui m'attend et rédiger ma to-do list. Vous avez aussi la possibilité de vous projeter sur un trimestre avec des planificateurs prêts à l'emploi. Cela peut être utile si vous avez un projet de grande envergure et que vous ne savez pas par quoi commencer ou comment le gérer sur une longue période. Par exemple, le Planner Focus de la marque Coven est un carnet pour vous aider à transformer vos objectifs en plans d'action clairs, à faire le bilan mois par mois et semaine par semaine. Pour l'avoir testé, c'est un carnet très facile d'utilisation qui vous demande un travail de réflexion et de projection parfait quand on a du mal à déterminer le temps nécessaire pour atteindre ses objectifs. Dernier point, ne pas oublier de garder de la place pour les imprévus. Consacrer au moins 30% de son temps aux imprévus, votre enfant récupéré à l'école parce qu'il est malade, une urgence au travail ou encore une réunion qui se cale en dernière minute. Cela vous évitera de replanifier votre journée à chaque contretemps. En résumé, avec la to-do list, pour gagner en productivité, c'est la vision moyen ou long terme qui vous permettra de mieux vous organiser. Raisonner en années, en trimestres, en mois et en semaines est une façon d'optimiser votre quotidien et de mesurer le travail accompli. Je vous ai parlé de comment je m'organise aujourd'hui avec ma to-do list. Toujours à visualiser en TOUT et plus loin DOUX, je vous raconte une petite anecdote au sujet de la to-do avant de terminer ce podcast. Ayant fait une licence en informatique, j'ai eu des cours de programmation dans lesquels des morceaux de code comportaient la mention « to do » en quatre lettres et tout attaché, donc T-O-D-O, que j'ai longtemps lu dans ma tête « todo », sans voir le parallèle entre ce qu'il y avait à faire, donc « to do » en anglais, et l'endroit où c'était situé, précisément là où il fallait que nous, étudiants, écrivions du code. Avais-je fait allemand première langue au lycée? Pas du tout. Était-ce ma naïveté qui me faisait dire que la personne qui avait imaginé le langage de programmation avait tapé au hasard ces quatre lettres pour montrer où le développeur ou la développeuse devait coder? Sûrement. Maintenant que nous savons qu'une bonne to-do doit être une liste unique de tâches personnelles ou professionnelles à planifier, que vous devez prioriser, ordonner ou supprimer régulièrement pour atteindre le but ultime, avoir accompli toutes vos tâches, vous avez une des clés pour gagner en productivité, optimiser vos journées et vous féliciter du travail accompli. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et que vous allez repenser vos to-do pour vous faciliter le quotidien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'écrire directement si vous souhaitez échanger sur le sujet et abonnez-vous à la newsletter pour ne rater aucun nouvel épisode. C'était Mélanie de l'Équation du Changement. Une réunion qui se cache. Ouh, je suis cachée. Ok.